Bienvenue dans le podcast de l'APM, je suis Rémi Rochon et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Michel Tonini avec qui nous allons partir, on va s'envoler dans l'espace, incroyable. J'avais la possibilité d'en avoir un des 11, j'en ai un en face de moi, il a mis la plus belle veste bleue, il m'a dit on peut acheter quasiment la même à H&M, se la façonner soi-même, mais celle-là elle a presque été dans l'espace, elle a réalisé les entraînements. Michel Tonini est l'un des 12, alors c'est quoi, astronaute, spationaute, qu'est-ce qu'on dit, Michel?
Alors au départ, on disait spationaute. Ouais. D'abord, bonjour Rémi.
Bonjour.
Et merci de m'inviter ici. On disait au départ spationaute, on avait le corps des astronautes français. Ensuite, on a été relié au corps américain, donc on était astronaute. Puis on a volé avec les Russes, donc on est cosmonaute. Mais on n'a pas volé avec les Chinois, donc on est tous sauf taïkonaute.
Ok, taïkonaute, ça existe?
Taïkonaute, c'est pour les Chinois, et puis vaïmonaute pour les Indiens.
D'accord. Donc ça, c'est la nouvelle génération qui arrive.
C'est ça, c'est les Chinois ont commencé à voler il y a 20 ans et les Indiens vont commencer à voler cette année ou l'année prochaine.
Et donc toi, tu fais partie des gens qui étaient presque à l'origine pour nous Français de cette aventure. Tu as mis un pied du côté des Russes, tu as mis un pied à la NASA, tu es toujours resté français dans ton ADN et dans tout ça. Et on va essayer de traverser cette histoire-là parce qu'à travers ton histoire de vie, ton histoire personnelle à toi, bah, c'est l'histoire de la conquête de l'espace avec notre ADN de français qu'on va vivre. Je suis un peu impressionné, je dois t'avouer. Je t'ai même demandé, est-ce qu'on peut se tutoyer, Michel? Est-ce que je dois te vouvoyer?
On doit se tutoyer parce que nous sommes citoyens de la même Terre. Le jour où on va rencontrer des Martiens, on pourra peut-être les vouvoyer. Mais sur Terre, on devrait tous se tutoyer.
À chaque fois que tu vas me parler, je vais avoir envie de rajouter des questions. Est-ce qu'on croit plus à la vie extraterrestre une fois qu'on est allé dans l'espace? Ou est-ce que ça... tu avais quel rapport à ça avant et tu as quel rapport à ça maintenant, tiens?
Alors, le rapport que nous avons est vraiment scientifique. Donc, on est vraiment pragmatique. C'est-à-dire que pour l'instant, la seule chose qu'on va faire, c'est un jour aller sur Mars. Donc, c'est quand même assez loin. Ce n'est pas avant 2050. Et sur Mars, on va essayer de trouver l'eau liquide qui se trouve dans la nappe phréatique de Mars pour pouvoir étudier cette eau liquide, savoir s'il y a des bactéries dans cette eau liquide et savoir s'il y a une communalité entre les bactéries martiennes et les bactéries terrestres. C'est tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Dans le système solaire, dans notre système à nous, où nous sommes aujourd'hui, on n'a pas trouvé une petite herbe de 3 mm. Donc la vie, elle n'est pas tellement probable. Mais il peut y avoir de la vie dans l'eau liquide qui se trouve dans les couches de certaines planètes comme Mars.
Est-ce que tu as envie quand même d'y croire plus que la moyenne?
Nous, on doit vraiment être scientifique et pas plus que la moyenne, mais on découvre de plus en plus grâce à nos télescopes, grâce à nos appareils scientifiques. On a trouvé ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire que lorsqu'on voit une étoile, ce n'est pas un corps unique, c'est un corps avec des planètes qui tournent autour, donc 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9 planètes autour, donc des systèmes comme le système solaire. Et on a été tellement fort pour trouver le fait que certaines planètes sont à une distance telle de leur Soleil que la température est entre 0 et 100 degrés, donc l'eau liquide est possible. Et si l'eau liquide est possible, la vie est possible. Donc, ce sont des exoplanètes, la vie est possible, mais pas sûre.
Et ça fait, j'imagine que c'est marginal dans le champ d'expérimentation, de recherche auquel tu t'es intéressé depuis le début de ta carrière. La vie à l'extérieur de la Terre, c'est quand même pas le sujet principal sur lequel vous travaillez ici.
C'est pas le sujet principal. Ce qui nous intéresse le plus, c'est comment protéger la Terre. Et nous avons un exemple vraiment facile dans le système solaire, c'est que Mars et la Terre sont des planètes jumelles. La vie a disparu sur Mars. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau sur la surface de Mars. Cette eau s'est dissipée parce que l'atmosphère s'est dissipée. Et comme nous avons une atmosphère sur la Terre, on voudrait tout faire pour protéger l'atmosphère de la Terre, pour qu'on protège la vie sur la Terre. Donc l'étude de Mars permet de conserver la vie sur la Terre.
Donc toi, tu fais partie des très rares personnes au monde qui ont pu regarder la Terre de l'extérieur en étant ailleurs. Comment, allez, on va repartir, on fait un gros flashback. Comment l'enfant Michel Tonini a pu réaliser le rêve de finalement combien, un gamin sur deux quasiment, qui est de dire quand je serai plus grand, je serai astronaute, quand je serai plus grand, j'irai dans l'espace. Mais toi, tu l'as fait. Il rêvait à quoi, Michel Tonini, quand il avait, je ne sais pas, une dizaine d'années? C'était quoi dans ta tête?
Alors moi, j'avais des rêves un peu confus parce que j'ai fait ma scolarité en Afrique, au Sénégal. Et à l'époque, j'avais très, très peu de professeurs qui venaient nous voir pour nous enseigner. Donc, ma scolarité n'a pas été extrêmement lisse et linéaire. Donc, je suis rentré en France à l'âge de 11 ans. J'ai redoublé ma sixième à l'âge de 11 ans. Non, j'étais pas très bon à l'école dans mes premières classes.
Oh là là, mais alors, ça, tu vois, j'avais même pas cette information-là.
Donc, c'était...
Moi, je pensais que tu avais fait les meilleurs collèges parisiens, que tu étais dans des voies toutes tracées. Qu'est-ce que tu fais au Sénégal jusqu'à tes 11 ans?
Alors, mon père travaillait en France. Mon père faisait du Morse. Il faisait le déchiffrage Morse des pilotes qui ramenaient des avions en Afrique. Et à l'époque, on ne parlait pas en phonie comme toi et moi aujourd'hui, on parlait en Morse. Tita Titi, c'était la procédure pour que le pilote puisse annoncer à la station réceptrice qui était en Afrique, nous allons arriver dans 5 heures, nous avons 150 passagers, 5 tonnes de fret et on voudrait repartir dans 4 jours après avoir fait les pleins. Donc c'était des communications qu'on avait régulièrement. Mon père déchiffrait, parce que mon père avait fait la guerre 2 fois et il traduisait le Morse pour aller faire la guerre en Allemagne.
Est-ce que toi, tu avais appris le Morse?
Non, j'ai appris le Morse, si, en tant que militaire, en tant que pilote de chasse.
D'accord, mais pas en enfant, et c'était pas un nouveau code que tu avais ramené dans les écoles du Sénégal pour avoir vos codes secrets avec les copains?
Non, mais j'avais quand même mon père qui aurait voulu être pilote, qui était associé à Air France, qui était associé au pilote, et son rêve, à lui, ça aurait été d'être pilote.
Ah, lui n'a pas été pilote Air France?
Non, il était déchiffreur de Morse.
Mais donc, il t'a quand même fait graviter dans cet univers de l'avion, c'est lui qui t'a transmis cette passion-là?
Il m'a donné la passion de l'avion, sauf que je n'étais pas bon à l'école. Donc, je continue mon histoire. J'arrive en France à l'âge de 10 ans, en 6e, 11 ans même. Et là, je tombe dans un CEG dans le 9-4, qui était une banlieue un peu chaude à l'époque. Et j'ai tombé sur un prof de maths qui était extraordinaire. Le prof de maths m'a fait passer de dernier en maths à premier en maths en 6 mois. Wow. Donc, j'étais avec les coefficients de l'époque, j'étais premier de la classe. J'ai compris que la solution, c'était les mathématiques. Donc, je me suis engouffré dans cette brèche pour faire des mathématiques, et j'étais tout le temps au sommet de la classe grâce aux mathématiques. Et après, rebelote, je tombe sur un professeur de dessin industriel qui préparait aux arts et métiers, qui s'appelait Burtel d'ailleurs, et je suis passé de débutant en dessin industriel à premier de la classe en dessin industriel. Donc j'ai dit, je vais faire les arts et métiers, c'est une école qui est pour moi. Et finalement, j'ai fait une école qui préparait Mathsup et Mathsé pour faire des écoles d'ingénieurs, et j'ai fait cette école qu'on appelle l'école des pupilles de l'air à Grenoble, les classes de l'air, qui préparaient à l'école de l'air. Donc, j'ai réussi à être pilote en passant un petit peu par les mathématiques, le dessin industriel, ingénieur, et j'ai fait cette école.
Et donc là, ton objectif le plus élevé à ce moment-là, c'est quoi? C'est d'être pilote d'avion?
Oui, c'était pilote de chasse.
Pilote
de chasse. Pilote d'avion, c'était soit les avions de transport militaire, soit les avions de chasse militaire, mais comme j'avais un profil physique qui était OK, donc j'ai été pilote de chasse.
Donc, Alors,
les débuts ont été difficiles parce que j'avais pas beaucoup d'expérience de pilotage avant, j'avais juste piloté dans l'armée, donc j'avais pas beaucoup d'heures de vol, donc j'ai dû vraiment travailler beaucoup plus que les autres pour y arriver. Et finalement, chaque vol a permis de monter un petit peu en grade, et j'ai réussi à être pilote de chasse, faire tout le circuit de l'école de chasse, pilote de chasse, et tous les grades, hein, pilote opérationnel, sous-chef de patrouille, chef de patrouille, commandant d'escadrille.
Donc là, et aujourd'hui, tu as combien d'heures de vol, Michel?
4500.
4500 heures de vol, et j'ai lu sur 90... dispositifs différents, avions différents, machines différentes.
Oui, c'est ça. Parce qu'il se trouve que...
Je ne savais même pas qu'il en existait autant.
Si, parce que j'ai fait les avions français, puis les avions anglais. J'ai fait l'école de pilote d'essai en Angleterre. Les avions américains, qui étaient aussi en France à l'époque. Les avions allemands, les avions italiens. Et j'ai volé également sur les avions russes, sur les MiG-25 russes.
Donc, quand on est pilote, on n'arrête jamais d'apprendre, finalement.
Il faut apprendre tout le temps. Et on passe des examens régulièrement. Des examens physiques, tous les ans. Examens intellectuels, tous les ans, pour passer au grade supérieur.
Donc là, tu es pilote. La première fois que tu pilotes un avion, tu as quel âge?
Enfin, Alors, un petit avion.
Un avion de chasse.
Un avion de chasse, eh bien, c'était à Salon, c'était le Fouga Magister, j'avais 23 ans.
Donc 23 ans, pilote de chasse. Et là, bon, tu déroules, tu continues à apprendre, tu passes les étapes, les concours.
Je trempais ma combinaison à chaque vol, donc c'était vraiment très très dur. J'étais vraiment. C'est une mission, c'est un travail dur. Il faut vraiment se remettre en question tous les jours, apprendre, et puis c'est compliqué.
C'est en pleine période Top Gun en plus. Quand Top Gun sort, toi t'es pilote de chasse.
C'est Top Gun, et puis c'est Tanguy La Verdure hein, qui était mes héros quand j'ai regardé à la télévision.
Incroyable. Et alors, et de là, ça t'amène à l'étape suivante, c'est quoi? Une fois que t'as fini cet épisode-là, pilote de chasse.
Alors non, je suis toujours pilote de chasse dans une base à Cambrai, mais il se trouve comme hobby, ça je ne sais pas si on pourra le dire officiellement, mais comme hobby, je montais des autoradios sur les voitures. À l'époque, il fallait creuser les portières, mettre des haut-parleurs, il fallait installer des amplificateurs et des radios, donc je faisais ça comme hobby.
Parce qu'il te restait du temps libre?
Le week-end.
Ah oui,
j'étais bricoleur le week-end, je bricolais des autoradios dans les voitures.
On n'a pas tous la même bande passante, hein. J'ai l'impression.
À l'époque, hein, c'était dans les années 75, et un jour, Le chef des opérations me dit, mais t'as une radio qui marche très très bien. J'avais une vieille voiture pourrie, mais j'avais une bonne radio. Donc il me dit, c'est super. Est-ce que tu peux faire la même chose dans ma voiture? J'ai dit, ok, je vais le faire. C'était le chef des opérations et qui était aussi pilote d'essai. Ah, il m'a dit, écoute, tu es vraiment un bon bricoleur, tu devrais être pilote d'essai. Ça s'est passé comme ça.
Ok, quel est le lien entre le bricolage et le pilote d'essai?
J'avais un lien avec ce garçon.
C'est pris d'amitié pour toi.
Qui s'est pris d'amitié pour moi. Et donc, j'ai été faire l'école de pilote d'essai en Angleterre et j'étais pilote d'essai après. J'étais pilote d'essai sur la base de Cazaux, sur les programmes militaires français, d'armement, de nucléaire, etc.
T'as un anglais parfait à ce moment-là déjà?
J'ai un anglais qui est bon, pas parfait, mais qui est bon quand même. Mais je ne parle pas le russe à l'époque.
À l'époque, tu ne parles pas le russe.
Voilà. Donc, je suis sélectionné.
Donc là, tu es en Angleterre.
Je suis en Angleterre, je fais l'école de pilote d'essai. Je reviens en France comme pilote d'essai pendant 3 ans. Et lorsque l'Europe décide de faire le programme Hermès, qui est la navette européenne qui devait décoller sur Ariane 5, on veut valider ce programme avec des pilotes d'essai. À l'époque, il fallait un pilote d'essai qui ait entre 34 et 35 ans, qui fasse moins d'1m83 et plus qu'1m76. Donc, j'étais pile dans les clous pour le faire. Et on était 2 pilotes d'essai à l'époque, Jean-Pierre Aigneret et moi-même, on s'est présenté, on a été pris comme pilote d'essai pour Hermès.
D'accord. Et à ce moment-là, tu avais déjà des rêves d'aventure spatiale ou dans le champ des possibles, mais pas plus que ça?
Quand on est pilote d'essai, on a vraiment l'envie de piloter sur des machines complexes, de faire des vols complexes, des vols extrêmement complexes, des fois au ras du sol, tirer des missiles dans des conditions extrêmes. On était vraiment dans l'extrême des essais en vol.
Finalement, c'est quoi la mission du pilote d'essai? C'est d'aller tester tout en conditions réelles tout ce qu'on a déjà validé avec des.
On testait, nous, de l'armement, par exemple, les systèmes pour le vol de nuit, les systèmes pour les missiles nouveaux, les armements nouveaux. Donc, moi, j'étais vraiment dans le centre d'armement qui était à Cazaux et on tirait tout ce qui était nouveau à l'époque.
Donc, c'est le plus exigeant, finalement, déjà des. Donc,
il fallait essayer, voir les compatibilités entre les radars qu'on avait, les systèmes, l'ergonomie qu'il y avait à l'époque, les figurations que nous avions dans les cockpits pour arriver à lancer ces armes de façon efficace.
Ok. Donc là, tu es sélectionné.
Je suis sélectionné. Donc, compliqué, hein, parce que j'arrive dans la sélection au même moment où j'étais responsable d'un programme très complexe au niveau de l'aviation. Donc j'étais constamment dans les avions et constamment à répéter mes missions avec les ingénieurs et au simulateur qui était à Clermont-Ferrand pour mettre les figurations cockpit qui soient compatibles avec ce qu'on allait lancer à bord. Et donc je passe ma sélection sur 1 an. Et la première sélection se passe mal puisque la première sélection consiste à faire le tabouret tournant. Le tabouret tournant, c'est un tabouret qui tourne sur un axe vertical et on doit se baisser régulièrement toutes les 5 secondes pour déclencher le mal de l'espace, le mal spatial ou le mal de mer. Et si ce test est éliminatoire, on est éliminé. Et il faut tenir 8 minutes.
Ah ou ?
C'est quand c'est compliqué. Et moi, je commence à être malade à 30 secondes.
Ouch.
Donc, c'est mal. Donc, je fais 30 secondes. Je dis, je vais faire 30 secondes de plus. J'ai fait 1 minute. Mais je vois que les 8 minutes, ça va être long. Donc, je réussis à gagner 2 minutes tout en étant simple, en contrôlant mon mal au niveau du ventre, en respirant bien, en faisant tout ce que je connaissais de yoga, etc., et de me contrôler. Et de petit à petit, je suis arrivé à 8 minutes. Donc, j'étais bon. Mais je suis sorti blanc comme un linge. Et pas bien du tout, puisque j'étais venu de Cazaux à Brétigny faire le test en Mirage. Je n'ai pas pu rentrer en Mirage. Je suis rentré avec l'avion de transport avec Air France parce que j'étais vraiment très, très mal. Je n'étais pas bien du tout. Il m'a fallu 3 jours après pour pouvoir marcher droit. J'étais toujours incliné comme ça à cause de ce test qui était quand même très, très dur.
Ah oui, ça a tout chamboulé. Quand tu dis « je suis venu en Mirage », c'est-à-dire tu prends le Mirage comme un Uber, quoi.
Oui, alors c'était un Mirage qu'on devait amener à Brétigny pour le modifier. Donc moi, je faisais toujours les navettes comme ça quand je pouvais avec un avion. Donc il y avait un Mirage qui était amené à Brétigny. Je l'ai amené à Brétigny. Et le test du tabouret tournant, c'était à l'endroit où il y avait la centrifugeuse et le tabouret tournant. Ça se trouvait à Brétigny.
Ok, ça tombe.
C'est toujours à Brétigny d'ailleurs.
Donc, tu arrives à passer le test.
Oui, je passe le test. Et après, il y a un test tous les mois. Donc, les tests médicaux, après, il y a les tests psychologiques, les tests d'interview. Donc, tout ça, c'est sur 1 an à peu près.
On est en quelle année là?
On est en 85.
85.
85. Donc, je suis sélectionné en 85, septembre 85. À l'époque, on est 7 astronautes français à être sélectionnés. En plus des 2 qui avaient volé avant, qui étaient Baudry et Chrétien. Donc, on était 7 plus 2.
Et là, tu pars à Moscou?
Alors, non, je dois partir. Normalement, comme je suis pilote prévu pour Hermès, qui est une navette spatiale, je dois partir à la NASA en 86. Manque de chance, 86, accident de la navette Challenger. Donc, la navette ne va pas décoller pendant 3 ans. Donc, à la place de partir à la NASA, je pars en Russie en 86 pour faire un entraînement comme remplaçant de Jean-Loup Chrétien. Et je vais donc à Moscou, à la Cité des Étoiles.
Là, si on s'arrête juste sur ce fait-là, tu as passé presque une vie à tendre vers un objectif bien précis. Tu passes un an de tests extrêmes et tu as enfin le tampon de validation. Et à ce moment-là, il se passe un aléa incroyable, accident. Le projet s'effondre.
Le projet...
Comment tu gères cette nouvelle contrainte, finalement, ce fait de jeu-là qui bouleverse totalement ton plan à toi?
Je me dis, il y aura 3 ans... Je comprends qu'il y aura bien 3 ans d'arrêt des vols de la navette. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'insister trop sur le côté NASA.
Et 3 ans, toi, tu es encore... Dans 3 ans, tu es encore OK. Enfin, je veux dire, ça colle avec ta tranche d'âge, tes capacités,
oui,
tout, pour
sûr.
Reprendre le programme. Tu peux juste te mettre en suspension pendant 3 ans.
Mais on me propose d'aller à Moscou faire l'entraînement.
Là, tout de suite.
Je pars à Moscou sans réfléchir, puisque de toute façon, c'est la seule façon d'être inscrit et d'être sur... La ligne qui va partir après. Donc, si vous êtes déjà dans l'entraînement, vous apprenez le russe, vous apprenez les systèmes, et puis après, vous serez le prochain à voler. Donc, c'est la seule carte que j'ai à jouer, et je la joue.
Et en 85, comment ça se passe entre les deux grandes puissances, justement, les États-Unis avec la NASA et Moscou de l'autre côté? Il y a eu la bataille pour aller les premiers sur la Lune. En 85, on est en quel état d'esprit?
On est encore dans la guerre froide. On est encore dans la guerre froide avec des combats, des rivalités entre Russes et Américains au niveau politique, mais surtout au niveau spatial, puisque les Russes ont gagné la première mission dans l'espace avec Gagarin en 61. Les Américains ont gagné la première mission sur la Lune avec Armstrong et Aldrin en 69. Et donc, il y a un match partout.
Un partout.
Après, les Américains font la navette américaine. Donc, les Russes font l'équivalent qui s'appelle Buran, qui va voler une fois. Mais c'était juste pour montrer cette compétition qu'il y avait. Et cette réussite entre deux idéologies différentes, le capitalisme et le socialisme. Donc, c'était vraiment pour dire, nous, les socialistes ou les communistes, on est aussi bons que vous. Donc, on était un peu égalité, sachant que les Russes avaient l'avantage des vols de longue durée. Donc, ils avaient beaucoup de temps dans l'espace par les stations spatiales qu'ils avaient. Les Américains avaient quand même moins de temps dans l'espace en temps cumulé. Donc, c'est un peu encore la compétition entre les deux, mais il se dessine quand même l'idée d'avoir une station internationale entre Russes et Américains.
Déjà, en 85, on en parle. Et en tant qu'Européens, c'est quoi? On est un peu au milieu et on peut basculer d'un côté ou de l'autre? Ou ça paraît presque étonnant que, ayant été calibré pour pouvoir rejoindre la NASA, tu puisses bifurquer, retourner côté russe. On pourrait se dire, non, il se méfie, ou qu'il y ait une espèce de climat un petit peu tendu là-dessus.
Alors, au niveau européen, il y a les Européens, il y a les Français. Les Français sortent un petit peu du lot à l'époque, puisque les Français initient la première coopération avec les Russes. Les Russes, les Soviétiques à l'époque, veulent une coopération avec le monde occidental. Le pays qu'ils choisissent, c'est la France. C'est eux qui choisissent la France, donc c'est Jean-Loup Chrétien qui va voler en 82. C'est la première fois. Et ensuite, on fait également une coopération entre le CNES, donc la France, et les États-Unis. Donc, on est les premiers à avoir cette double coopération avec Russes et Américains.
Parce que les Français, on a toujours produit les meilleurs ingénieurs ou des gens très, très, très bons, très performants, et qu'on avait déjà une capacité à produire une espèce d'élite adaptée à ça, ou pour d'autres raisons qui s'est...
Pour des raisons diplomatiques. On avait une bonne diplomatie, on s'entendait quand même assez bien avec les Russes. Et puis, on avait commencé à faire des programmes scientifiques avec les Russes, où on avait lancé des satellites avec eux et qui marchaient bien. Donc, on avait une double coopération au niveau scientifique pur, spatial, avec les Russes et les Américains. Et c'est de là que ça a grimpé un plus pour monter avec les vols habités que nous avons fait avec Russes et Américains.
Donc là, 86, tu rejoins l'équipe russe.
Star City, oui. C'était la Cité des Étoiles où nous faisons l'entraînement. Donc j'apprends le russe pour ça, bien sûr. Et je fais l'entraînement qui est assez fastidieux. Imaginez-vous, quand on est pilote de chasse, ou pilote d'essai, on est dans les avions toute la journée à faire des vols, des comptes rendus. Donc, on a une vie assez trépidante. Et là, vous vous retrouvez à l'école avec un professeur, un tableau noir, la craie, et puis vous prenez des notes. Donc, c'est quand même... C'est pas facile au départ. Je le vis pas très, très bien au départ, parce qu'il faut retourner à la case scolaire. Et donc, il faut se réadapter. Il faut souffrir un petit peu pour y arriver. Mais je passe quand même un peu tous les examens. C'est des examens réguliers, l'apprentissage du russe, l'apprentissage des systèmes, du vaisseau Soyouz, de la station Mir, passage au simulateur sur les checklists normales, les checklists de panne, et après les pannes superposées. Donc, je fais ça pendant 2 ans pour le vol de Chrétien qui décolle en 88. Et je retourne après en Russie en 91 pour faire un vol en 92.
Donc là, c'est la première fois que tu quittes la terre ferme. enfin la Terre ferme non, mais en tout cas, que tu vas dans l'espace, oui. 92, vaisseau Soyouz, et c'est là où tu vas sur la station Mir.
Exact. C'était en été 92, donc c'est un vol court. On décolle en Soyouz, on passe 2 jours dans le Soyouz pour rejoindre la station spatiale Mir à l'époque, et on reste après 15 jours, enfin au total, le vol durait 15 jours sur la station Mir et le vaisseau Soyouz pour faire un programme scientifique français qui a été validé par les Russes.
Qu'est-ce qui était le plus étonnant pour toi, ce à quoi tu t'attendais le moins pendant ce voyage-là?
Alors la force au décollage, hein, l'énergie au décollage qui est assez importante quand même, c'est quand même 550 tonnes de poussée pour 500 tonnes de poids, la vitesse d'arrivée en orbite, en 9 minutes on est en orbite, et puis la vitesse horizontale, parce que finalement, on s'arrache à la verticale, on va entourer la Terre, et à la fin, on est vraiment à l'horizontale. Et je me souviens, on était à l'horizontale, et le vaisseau, c'était le troisième étage, il accélérait, la vitesse incrémentait, on était à Mach 15, Mach 20, Mach 25, et à un moment donné, il y a la séparation, et j'avais dit, j'ai jamais été aussi vite. Et après, on regarde le sol, c'est vrai qu'on va assez vite, on fait quand même un tour de la Terre en 1h30, 90 minutes. Et donc ça va quand même très très vite.
Depuis tout à l'heure, je regarde ton patch Mach 25.
Mach 25.
Et oui. Je me dis, waouh, Mach 25.
Mach 25. Donc à l'époque, j'avais été à Mach 2 sur Mirage, mais là on était à Mach 25. Donc c'est des vitesses assez rapides.
C'est la plus rapide à laquelle tu étais ?
Pour l'instant, oui. Okay. Pour l'instant, oui. Ceux qui iront sur Mars iront à Mach 30 ou Mach 40, mais pour l'instant, nous on est à Mach 25.
Ok, c'est le max qui a été atteint.
Qui étaient atteints, sauf ceux qui ont été sur la Lune, ils ont été plus vite parce qu'il faut passer par la vitesse de libération. Mach 25, c'est la vitesse d'équilibre autour de la Terre. Mais si on veut quitter la Terre pour aller sur la Lune, il faut augmenter un petit peu. On sera à Mach 28, Mach 29.
Donc, ça fait quoi de voir la Terre vue d'en haut ?
Alors, je reprends une phrase d'un célèbre astronaute américain qui dit « La Terre, eh bien, elle est bleue comme un orange ». Comme une orange. Elle est bleue comme une orange. Donc c'est ce côté rond et ce côté bleu. Et puis ce côté un peu mystérieux parce que la Terre, c'est quand même 70% d'océan et de liquide. Et comme on la voit avec quand même 3000 ou 4000 km de circonférence par rapport à nous, on voit ce bleu mouillé. On a l'impression d'avoir une planète mouillée. Et cette eau qui tient miraculeusement par les forces de gravité. Et les couleurs qui sont chatoyantes. C'est-à-dire qu'on peut passer sur la Terre, on voit des couleurs qui sont extrêmement belles. Et on reconnaît, au bout d'un certain nombre de jours, on reconnaît les endroits sur lesquels nous volons par les couleurs. Les couleurs, les axes, les formes géométriques sont plus importantes que les dessins que nous avons au départ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on ne voit pas les frontières. Par exemple, entre la France, l'Allemagne, la Russie, on ne voit pas les frontières qui sont dessinées sur les cartes qu'on apprend en géographie quand on est jeune. Par contre, on voit une frontière, c'est la frontière entre l'atmosphère et l'espace. Et ça ne fait que 100 km. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace, 2 jours, le ciel est noir. Ici, le ciel est bleu. Là-haut, le ciel est noir. Donc, c'est assez impressionnant. Et le noir, c'est vraiment austère et c'est vraiment dangereux. Parce que le noir, c'est le vide. Et c'est une température de plus 150 degrés face au soleil, moins 150 degrés face à l'ombre. Donc c'est vraiment dangereux. Et le vide, c'est dangereux aussi. Si vous êtes dans le vide comme ça, sans combinaison et sans scaphandre, le sang va partir en ébullition en moins de 2 minutes. Donc c'est la mort assurée. Donc le danger et la beauté de la Terre sur un écran noir. C'est l'impression que on a mis la Terre sur un écran noir pour qu'elle soit jolie comme un bijou. C'est extrêmement joli, c'est extrêmement beau. C'est quelque chose de poétique. On a envie de le regarder sans arrêt. On n'a pas le temps parce qu'on a beaucoup de travail, mais on ne s'arrête pas d'avoir envie de découvrir la Terre. Et en plus, l'œil va s'habituer au fur et à mesure à voir ces contours terrestres que l'on ne voit pas quand on est à 400 km. Donc, chaque jour, on va découvrir des choses différentes. On va découvrir des aspects différents de la Terre qui sont très intéressants. Donc, c'est quelque chose de vraiment un grand bonheur de regarder la Terre de là-haut.
On peut faire l'hypothèse que ça bouleverse déjà son rapport à tout. On parle toujours d'essayer de quelque chose de plus grand, mais là, tu es d'un point de vue qui, de fait, te met dans une situation où tu es dans quelque chose d'immensément plus grand. Est-ce que ça a changé même ton système de croyance ? Au-delà de on a compris de la dimension aussi profondément poétique et l'accès au beau, l'accès à... Ça bouleverse ton système de pensée, j'imagine, même déjà visuel. Est-ce que ça a changé des choses ou est-ce que là, quand je t'écoute, je me dis, peut-être que tu as envie de protéger ça de façon différente, ou peut-être que tu as des prises de conscience quand tu es à un autre endroit avec un autre point de vue qui sont tellement radicales que ça va te bouger en profondeur. Est-ce que toi, tu as ressenti quelque chose de ce style-là ou pas?
Il y a un petit côté miraculeux. C'est vrai, quand on voit la Terre et quand on voit la Lune, la Lune, on la voit jaune, elle est quand même embellie quand on voit la Lune sur Terre. On la voit avec un reflet de soleil, donc elle est jaune, elle est quand même, avec un beau petit croissant, c'est beau. Quand on voit la Lune de là-haut, c'est un morceau gris qui n'est pas beau du tout. C'est pas appétissant, on n'a pas envie d'y aller. Quand on voit la planète Mars avec les photos qu'on a vues, rien n'est appétissant. La seule chose qui soit vraiment agréable à regarder, c'est la Terre.
Okay.
Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait la première mission sur la Lune, on cherchait la Lune, on a trouvé la Terre. La grande photo où on voit un lever de Terre sur un fond de Lune, c'est la photo où on a découvert la beauté de la Terre avec ses couleurs rouges, bleues, blanches, qui sont vraiment extrêmement belles. Donc, il y a un petit côté mystérieux. Il y avait un petit garçon qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps, il m'a dit « Mais est-ce que vous croyez en Dieu ?» Ben, j'ai dit « Vous savez, c'est compliqué à dire, mais quand on est là-haut, on voit la Terre qui est très belle, immensément belle, respectueusement belle, religieusement belle. Donc il y a un petit côté religieux. Maintenant, ça ne force pas les croyances. Ça ne force pas celui qui n'est pas croyant. J'ai des copains astronautes qui ne sont pas croyants, ils ne resteront pas croyants. Celui qui est croyant restera croyant. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde la Terre, il y a un petit côté miraculeux de dire pourquoi uniquement cette planète est habitée avec de la vie, avec des signes extérieurs de vie, alors que le reste, c'est vide complètement.
Incroyable. Revenons, donc là, on est...
Ça fait penser... Pardon. Alors, les autres pensées que nous avons, c'est d'abord, moi, la pensée qui était miraculeuse, c'est-à-dire que comme j'ai un peu cet ADN d'ingénieur que j'avais depuis mon école, quand on voit la station spatiale qui tourne à 28 000 km à l'heure et que nous, on va rentrer dedans tout doucement à 30 cm par seconde, on se dit quand même... Le succès de l'ingénieur qui a fait ce système-là, qui a fait ces cylindres qui tiennent dans l'espace, qui tournent constamment depuis des vingtaines d'années, des dizaines d'années, et puis faire ce rendez-vous très très précis pour qu'on arrive à rentrer à l'intérieur. Donc,
t'es sûr que ça va marcher à ce moment-là?
Oui, ben on a confiance, monsieur.
Oui, t'as confiance, il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute, mais on se dit quand même, franchement, si l'humain est capable de faire ça, on peut faire des choses encore plus incroyables. Donc l'accès à l'espace montre que l'humain peut faire des choses extrêmement grandioses. Et puis, troisième volet, c'est le volet unité de la Terre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les frontières, donc on est tous citoyens de la même Terre. C'est pour ça qu'on doit se tutoyer, parce qu'on est de la même Terre. Donc, citoyens de la même Terre, ça veut dire qu'on doit se protéger. Il n'y a pas de... Ces rivalités qu'il y a entre les pays sont stériles. Il faut qu'on arrive un jour à les dissiper. Et c'est pour ça que notre but à nous, c'est d'aller sur Mars pour protéger la Terre. Et il est certain qu'on n'aura jamais la puissance financière, technologique et totale pour arriver sur Mars si on n'a pas une unité globale sur Terre. Donc il faut vraiment qu'on s'entende à tout point de vue sur Terre, principalement entre les grandes puissances, pour qu'on puisse un jour mettre un drapeau de terre sur Mars.
Mais alors justement, on va accélérer un petit peu pour en arriver là. Déjà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc là, on est, 92, tu refais un deuxième voyage et après on va rebasculer justement à revenir, accélérer dans le temps. En 99, tu refais un deuxième voyage?
Oui, c'est ça, sur la navette Columbia. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le vol en 92. 92, c'est l'année où le programme Hermès, auquel j'étais assigné, est abandonné. Donc, je n'ai plus de programme pour moi. Donc, okay. Mon vol ne sert pas dans l'optique d'Hermès, mais les Russes signent l'accord de coopération sur la station internationale en 93. Les Américains sont très inquiets sur cette coopération. Les Russes, pas très chauds non plus. Et les Américains me demandent d'aller à la NASA pour les aider dans cette coopération. Donc Jean-Luc Chrétien et moi, nous allons là-bas pour aider dans cette coopération qu'il y a entre Russes et Américains. Donc au départ, j'étais juste pour consultant, j'étais juste pour un an. Et puis ça s'est bien passé, donc je suis resté là-bas plus longtemps. Et j'ai fait un vol en 99 sur la navette Columbia pour lancer un télescope de rayon X qui s'appelle Chandra, qui va chercher les images rayon X des trous noirs et des étoiles à neutrons.
Et donc, la station internationale, projet finalement qui réunit les deux grandes puissances qui ont fait la course. Alors, pas que, hein, puisque tu vas nous en parler. Et là, on a un paquet de monde, oui. mais pas tout le monde non plus, puisqu'on sait que tu as parlé tout à l'heure des Chinois, des Indiens, eux participent pas, ils font leur route de leur côté. Oui. Et donc là, on réunit les Américains, oui. Les Russes, 8 pays européens.
Alors les Japonais, les Canadiens Japonais. Et 10 pays européens.
10 pays européens.
Donc avec beaucoup... 15 pays au total qui travaillent ensemble.
Et donc là, tu as participé activement à ce grand élan qui a été pour nous Français aussi très incarné par un autre astronaute récent que tu as participé à recruter Thomas Pesquet.
Thomas Pesquet.
Donc, qui a fait l'actualité pendant des semaines et des semaines et des semaines. On a suivi et on a basculé dans une nouvelle ère aussi de l'accès à toute cette information-là, finalement presque quotidienne avec, grâce à son activité sur les réseaux sociaux. Oui. Comment on a basculé d'une ère où finalement les Américains et les Russes se sont tirés la bourre pendant des années pour pouvoir être les premiers à faire ci, puis répondre et puis être à nouveau les premiers. Et puis finalement, tout le monde collabore.
Alors, au départ, c'est les premiers vols, c'est Gagarine qui va partir en vol. Gagarine part en vol, mais il est admiré bien sûr par les Russes, mais il est admiré par un Américain qui est Armstrong. Neil Armstrong qui sera le premier à aller sur la Lune. Donc, Armstrong a toujours cette envie de dire comment il a réussi à le faire. Et ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'admiration. Il y a une admiration entre certains astronautes et cosmonautes américains depuis le départ. D'ailleurs, quand Armstrong va sur la Lune, la première chose qu'il va faire après son atterrissage, c'est d'aller en Russie pour aller voir les Russes, voir le centre spatial et s'installer au bureau de Gagarine, voir la famille de Gagarine, etc. Et une chose que personne ne sait, c'est qu'au premier vol Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, la chose qu'ils ont laissée sur la Lune, ce sont des médailles des deux décès du spatial soviétique, Gagarine et Komarov. Ce sont des médailles qui ont été données de façon privée par les épouses à Armstrong. Et Armstrong, sans le dire à la NASA, il les a mis dans sa combinaison, il les a cachées dans un plastique, arrivé sur la Lune, il les a mis sur la Lune, il a pris les photos, il a donné les photos après au retour aux épouses. Donc il y avait un lien fort entre astronautes et cosmonautes, beaucoup plus fort que chez les politiques. Et les politiques ne le savaient pas forcément. Donc ce lien a commencé à ce moment-là entre Gagarine et Armstrong. Il y a un livre qui parle de ça, de la page de Gagarine, page d'Armstrong. C'était quand même quelque chose d'assez important de réalisation d'amitié entre ces deux personnes. Ensuite, il y a eu cette idée de faire le vol Apollo-Soyuz en 73 avec un équipage russe, un équipage américain. Donc un vaisseau Apollo, un vaisseau Soyuz. Et pareil, dans cet équipage, il y avait 5 personnes, mais 2 se sont pris d'amitié, qui sont Tom Stafford et Alexei Leonov, un russe, un américain, tous les deux pilotes de chasse, tous les deux des vrais guerriers. Ils se sont restés en amitié pendant toute leur vie jusqu'au décès. Quelque chose d'absolument incroyable. Ils ont passé toutes les années, depuis 1973, ils ont passé toutes les années les vacances ensemble. C'est pour vous dire quand même que c'était quand même une amitié vraiment, vraiment forte. Et de là, on est arrivé à vouloir faire cette station internationale. C'est eux qui ont été les instigateurs de dire faisons une station ensemble, mettons non pas un drapeau national sur la Lune, mais un drapeau de terre sur la Lune. Et la première chose, c'était de faire l'ISS. Donc, il y a eu plusieurs plans pour cette...
L'ISS, alors...
C'est International Space Station, donc c'est la Station Spatiale Internationale. Donc, il y a eu plusieurs plans. Nous avons signé cette station en 86-87, et les Russes ont signé en 93, assez tardivement. Et au départ, quand je suis arrivé à la NASA en 95, les Américains disaient, cette station... On n'en veut pas. On ne veut pas travailler avec les Russes. Ce sont nos ennemis. C'est impossible. Donc moi, j'arrivais un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc tous les jours, j'étais au sixième étage avec les astronautes. Ils me disaient, mais comment c'est chez les Russes? Est-ce qu'on peut travailler avec eux? J'ai dit, oui, on travaille bien. Et c'est des gens gentils, agréables. Dans l'espace, ils servent, ils aident beaucoup. Ils m'ont beaucoup aidé dans mon vol. Ce sont des gens vraiment, vraiment sympathiques. Mais ils avaient des idées très, très marquées, anti-russes, parce que c'est beaucoup de militaires, beaucoup de gens qui avait été façonné sur cet esprit anti-soviétique. Et de même, les Russes avaient des esprits anti-américains. Donc moi, j'étais un petit peu, avec Jean-Luc Chrétien, les deux personnes qui avaient beaucoup d'expérience du russe, on parlait le russe, on avait vécu avec les Russes, on avait volé dans l'espace avec le russe, et on était à la NASA pour un petit peu aider à les amadouer sur cette relation. Et ça marchait, puisqu'on a lancé la station en l'an 2000, la station internationale, petit à petit. Et cette station s'est montée graduellement, sans aucun problème, sans aucun... problème technique ou problème humain. Et c'est quand même une grosse armature. Imaginez-vous, 7 vols par an, 10 années de construction, 70 vols d'assemblage avec des navettes spatiales, des vaisseaux russes, des lanceurs russes. Et tout s'est bien monté. Il n'y a pas eu un seul problème technique ou problème humain. Alors qu'il y avait des problèmes sur Mir, des problèmes sur Salyut. Cette station a montré que quand on coopère, finalement, on grandit et on travaille mieux. Il y a un respect qui va se mettre par rapport aux Russes et aux Américains, et tout a fonctionné de façon parfaite. Et aujourd'hui, on est maintenant à 24 ans de station spatiale. La station devrait s'arrêter en 2030, voire 2031. Elle commence à être usée, surtout la partie russe, qui était la première à être lancée. Elle commence à être un petit peu... il y a des petites fuites, des micro-fuites à l'intérieur, donc c'est un peu complexe pour la maintenir en vol.
Donc elle va être démontée et ramenée.
elle va être ramenée au sol, elle va brûler sur le point de Nemo, qui est un point qui est au Pacifique, où tous les éléments brûlent dans l'espace à 2000 degrés, donc il ne reste rien, ça tombe dans la mer. Mais c'est une coopération qui marche bien, qui est bien vue et des Russes et des Américains. Pourquoi ? Parce que les Russes ont appris de la technologie sophistiquée de pointe des Américains. Les Américains ont appris de cette expérience de longue durée des Russes. Chacun a appris l'un de l'autre. Et ça s'est fait avec une grande flexibilité intellectuelle et des Russes et des Américains, parce que les Américains ont accepté de prendre des méthodes russes qu'ils ne voulaient pas au départ, les Américains. Donc, c'est un truc qui marche bien avec les Russes, on va le faire. Et les Russes ont aussi accepté de prendre des éléments américains qui fonctionnaient bien chez les Américains. Donc, c'était un double apprentissage. On est à un tel point aujourd'hui que, bien sûr, comme il y a la guerre en Ukraine, on ne peut pas commencer officiellement un programme commun entre Russes et Américains. Mais je peux vous dire que Russes voudraient continuer, vraiment, et Américains voudraient continuer Américains, mais politiquement, ça ne passe pas.
Et c'est quoi le grand projet qu'ils ont en commun ? Ça serait quoi le grand projet
Le grand projet en commun, c'est ce qu'on appelle le Gateway, qui est une station spatiale, non plus autour de la Terre, mais autour de la Lune. La prochaine étape, c'est la Lune. Donc, on va graduellement de l'orbite basse autour de la Terre vers une station qui sera autour de la Lune. Et lorsqu'on aura acquis toutes les connaissances autour de la Lune, on pourra aller faire une station autour de Mars. Donc, il y a vraiment l'ISS, puis la Lune, puis Mars.
Et donc, tu m'as dit d'ailleurs qu'avec l'ISS, il y avait d'autres programmes qui étaient prévus. Artemis 2, qui devrait faire le tour de la Lune.
C'est ça. C'est donc la mission Artemis 2 qui devait décoller cette année, qui est reportée d'une année, donc l'année prochaine, qui sera une mission habitée. Artemis 1 a décollé l'année dernière, inhabitée. Oui. Artemis 2 sera habitée autour de la Lune. Et Artemis 3 devrait se poser sur la Lune. Mais on n'a pas de lander, on n'a pas d'atterrisseur pour la Lune aujourd'hui. On a juste la fusée de Elon Musk, qui va lancer dans 15 jours ou 3 semaines, et qui va essayer de réussir son vol. Donc, il y a eu 4 échecs jusqu'à présent. Donc, il va essayer de lancer avec succès, et surtout de partir autour de la Terre, et de rentrer cette fusée autour de la Terre pour qu'elle se pose à Boca Chica, ce qui n'est pas facile, parce que c'est la première fois qu'une fusée va rentrer avec une protection thermique comme sur un vaisseau spatial. Donc, il faut que la fusée puisse avoir une protection thermique régulièrement organisée par rapport à sa circonférence et qu'elle puisse tourner dans la rentrée atmosphérique pour que la chaleur des 2000 degrés puisse être dissipée sur le total de la circonférence. Donc ça n'a jamais été fait. C'est quelque chose de très complexe, mais il va essayer de le faire. Et c'est le seul lander aujourd'hui que nous avons pour aller sur la Lune.
C'est incroyable que Elon Musk soit aussi stratégique, important là-dedans. Et qu'en même temps, ce qu'on entend de lui au quotidien dans les médias, c'est des histoires autour de X, le rachat, ses prises de position de plus en plus radicales. Comment on est ? Ça, ça traduit finalement bien l'époque dans laquelle on vit, qui est quand même, tu le décris depuis tout à l'heure, l'espace, c'est quelque chose de on ne peut plus sérieux. Je veux dire, il n'y a pas plus sérieux que ça. Les enjeux géopolitiques, tous les enjeux même sont le top de ce qu'on a comme enjeu. Et pour autant, là, on est face à un personnage qui est très clivant. Comment t'expliques ça, toi ?
Alors, c'est un personnage qui est multifacette, qui travaille beaucoup. Hein. Il fait 90 heures par semaine, donc il travaille jour et nuit. Il a un cerveau qui phosphore de plein d'idées.
Et puis, c'est compartimenté, puisque les équipes de SpaceX sont pas les mêmes que celles dont on parle sur X, justement,
oui.
Ou quoi.
Donc, lui, il voulait faire l'accès à l'espace. L'accès à l'espace, c'est l'accès des fusées au départ, les fusées qui ne marchent pas très bien. Donc, il a vraiment travaillé d'arrache-pied pour faire des fusées. Il fait tout, hein. Il fait le corps de la fusée, il fait les moteurs de la fusée, tout est fait chez lui, dans ses usines à lui. Après,
Toi, tu l'as vu arriver, en tout cas, les copains de la NASA, ils l'ont vu débouler.
J'ai connu en 95, on n'y croyait pas. Personne ne croyait qu'un jour, il allait envoyer des fusées, voire des humains. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent souvent pour me dire, je vais faire comme Elon Musk, et j'y crois jamais. Mais Elon Musk, il a réussi parce qu'il était persévérant, parce qu'il s'est associé avec des personnes qui travaillaient bien. Il avait sélectionné autour de lui des ingénieurs qui étaient vraiment de très, très bon niveau. Et lui aussi travaillait beaucoup. On m'a raconté une histoire il n'y a pas très longtemps. Il était à Boca Chica en train de faire un système sur le Pathir qui va lancer cette fusée Starship qui va sur la Lune. Il voit un soudeur qui commence à souder un système de métal. Il dit, mais comment vous faites pour souder ? Il fait comme ça. Je vais vous montrer comment je fais moi. Et puis, il a commencé à faire la soudure. Donc, il fait un petit peu tout. C'est un peu comme Ben Smith, le patron d'Air France. Il va vérifier un petit peu tout dans l'avion, comment ça fonctionne, sans faire du micromanagement, pour savoir exactement l'état de l'art d'aujourd'hui, de l'aviation ou de l'espace. Donc, ça, c'est vraiment...
Donc, un personnage exceptionnel qui travaille beaucoup, qui est un visionnaire.
Qui est passionné. Sa vision, c'est Mars. Lui, sa vision, c'est Mars. Et peut-être qu'il ne le verra pas, mais au moins, il lance la trajectoire vers Mars. Et peut-être qu'il ne le verra pas parce que l'âge venant, et Mars est 2050, donc il sera peut-être un peu âgé à ce moment-là. Mais il met tout en œuvre pour y arriver. Et je peux vous dire que moi, j'étais à Cap Canaveral il y a environ un mois et demi. Il décolle 100 fusées par an, qui sont équivalentes à Ariane 5. Quand nous, on décolle en Europe, 6 ou 7 fusées par an maximum. Et parfois, il lance la Falcon Heavy, qui fait 3 fois la capacité d'Ariane 5. Donc, c'est un monstre de lancement. Quand j'étais à Cap Canaveral, il lançait nos satellites Galileo. Et donc, il travaille vraiment, vraiment beaucoup pour lancer les satellites américains, civils, les satellites européens, Galileo, et parfois également des satellites militaires. Donc, il fait lui-même les 3 lancements à un prix intéressant. Il lance à 70 millions, quand nous, on lance Ariane 5 à 150 millions. Donc, il a diminué les prix. En diminuant les prix, c'est simple. Il a fait travailler les gens au même rythme que lui. Si on rentre chez Elon Musk, chez SpaceX, ben, il faut travailler 70 à 90 heures par semaine. Mais si vous travaillez un an et vous avez marqué sur votre CV « J'ai fait SpaceX pendant un an », vous rentrez partout dans le monde entier sans aucune ligne d'explication sur votre CV ou sur vos études.
Et alors, donc ça, c'est les Américains. Les Chinois et les Indiens, ils en sont où là-dessus? Alors,
les Chinois ont commencé tardivement parce que les Chinois voulaient montrer également que leur régime politique était capable de produire des ingénieurs et des techniciens suffisamment de bon niveau pour lancer des fusées. Mais les fusées, quand elles lancent, on ne le voit pas très très bien. Ce n'est pas tellement quelque chose qui fait de la publicité. Par contre, quand ils lancent leurs taïkonautes, leurs astronautes, on se dit quand même ils sont capables de lancer des fusées qui sont fiables, des vaisseaux qui sont fiables. Et on peut dire, on peut beaucoup critiquer les Chinois, mais c'est la seule agence spatiale qui a fait tous les vols spatiaux depuis plus de 20 ans sans aucun accident. Alors que les Russes ont eu des accidents, les Américains ont des accidents. Donc, ils ont appris les leçons des autres agences spatiales pour y arriver correctement. Donc, les Chinois l'ont fait. Et les Indiens, également, ils veulent dire ben, nous sommes une nation également efficace. Nous avons des techniciens, des ingénieurs. Nous allons vous montrer ce qu'on sait faire. Ils font des fusées. Ils ont leur corps d'astronaute. Ils ont leur vaisseau. Et ils vont décoller prochainement pour montrer. C'est une démonstration d'arriver dans l'espace. Et comme les Indiens sont extrêmement innovants sur le spatial et sur la technique, ils vont faire des missions que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui risquent de dépasser celles faites par Russes, Américains, Chinois aujourd'hui. Et nous, Européens, malheureusement, on reste un petit peu en retrait parce qu'on n'y a pas cru. On n'y a pas cru au départ. On était un petit peu timide. On n'a pas cru qu'on pourrait le faire. On n'a pas cru qu'il y aurait un enjeu sur l'espace. Et quand on voit aujourd'hui les résultats financiers de l'espace, quand on voit la fortune qui a été amassée par SpaceX, on aurait pu le faire. Lancer des norias de satellites dans l'espace pour faire de la communication type Starlink pour le sol, on aurait pu le faire. C'était à notre portée. On aurait pu le faire avant les Américains. On n'a pas fait. Et donc, on a des marchés énormes de milliards qui nous dépassent et qui nous échappent, malheureusement, par un manque de vision. C'est clairement de la vision que nous n'avons pas eue à l'époque.
Et aujourd'hui, les grands enjeux de demain dans l'espace. J'ai écouté une conférence que tu as faite à la dernière convention de l'APM où tu parlais d'aller sur la Lune pour l'hélium 3.
Oui. Alors ça, c'est aussi un des enjeux. L'enjeu, c'est d'abord d'aller sur Mars. Mais comme pour aller sur Mars, il faut qu'on fasse un entraînement et que la Lune, c'est le terrain le plus économique pour s'entraîner avant d'aller sur Mars, c'est des missions qui sont accessibles parce qu'on l'a déjà fait et donc c'est quand même réalisable. Eh bien, on va se servir de Mars pour faire de la science. C'est-à-dire, il y a 2 choses importantes à faire sur la Lune. C'est prendre la glace qui se trouve dans le pôle sud, qui a été bombardée par un énorme météorite, pour voir si cette glace, on peut la transformer en hydrogène, enfin en eau, donc hydrogène, oxygène, pour en faire de l'oxygène pour les astronautes ou de l'hydrogène pour les moteurs du futur. Et aussi l'hélium 3. Il y a 500 millions de tonnes d'hélium 3 sur la Lune, et cet hélium 3 pourrait être le carburant préférentiel de la fusion nucléaire, non pas de la fission comme aujourd'hui, mais du nucléaire propre. Et donc on a environ 10 000 ans de nucléaire, d'énergie électrique qui stagne sur la Lune. Et 1 mètre cube d'hélium 3 vous donne l'énergie électrique d'un continent sur un an. Donc c'est quand même assez énorme. Donc pareil, on n'y a cru qu'à moitié. J'ai parlé avec beaucoup de scientifiques qui disaient oui, peut-être qu'il n'y en a pas. Les Chinois ont dit mais peut-être qu'il y en a. C'est la différence. Le verre est à moitié vide, le verre est à moitié plein. Et les Chinois y vont. Ils ont la fusion nucléaire qui ne fonctionne pas très bien, elle est comme la nôtre, elle ne fait que quelques secondes, hein, parce que c'est très complexe à mettre en marche, mais leur but, c'est d'aller sur la Lune pour récupérer l'hélium 3 et le ramener sur Terre.
En tout cas, on voit bien que là, on change d'échelle d'un coup dans tout ça. Les perspectives sont énormes, c'est radicalement différent de ce qu'on connaît, c'est vraiment, on est dans la rupture totale. Toi, tu as passé ta vie à envisager ça, finalement, un lendemain en totale rupture avec ce qu'on connaît. Tout est possible.
Complètement. Et même, j'ai même fait quelque chose qui était assez incroyable, c'est qu'en 2000, on a eu le premier touriste de l'espace, qui était Denis Tito. Et donc, personne n'en voulait à l'époque, ni les Russes, ni les Américains. Mais les Russes étaient un petit peu en manque de moyens financiers. Donc, une personne privée qui amenait un petit peu d'argent d'extérieur, c'était quand même bien vu dans l'an 2000. Donc, Denis Tito a été le premier touriste de l'espace. Et aujourd'hui, on voit régulièrement...
On en est où, là, du tourisme de l'espace ?
Ben, ça continue toujours par Jeff Bezos, qui lance sa fusée pour faire une montée, une descente. Donc, c'est un vol... Voilà, la verticale, on va monter au-dessus de l'espace et on redescend. Après, il y a le vol Virgin Galactic, qui décolle pour monter à 80 km et qui redescend. Il fait une parabole qui va durer 4 secondes à peu près, ou non, 4 minutes à peu près. Et puis après, il y a les vols...
Combien ça coûte aujourd'hui d'aller faire un vol dans l'espace ?
Alors, il y a le moins cher, c'est Virgin Galactic, qui fait dans les 260 000 euros à peu près, ou 300 000 euros. Après, il y a les vols de...
C'est carrément accessible.
Oui, c'est carrément... Il faut vendre ses Ferrari, on y arrive.
Oui, voilà, c'est pas...
Après, il y a les vols de Bezos, dont le prix est secret, mais bon, c'est accessible, puisque... Il y a un barman de Chamonix qui l'a payé, donc à mon avis, ça dépasse pas les...
De Chamonix qui allait dans l'espace.
Oui, le chef du...
Ah mais oui, c'est de la folie douce, non ?
Oui, c'est ça, qui a réussi à faire un vol dans l'espace. Il a décollé la semaine dernière.
Incroyable.
Et donc, mais les vols à l'époque...
Ça demande un gros entraînement physique ?
Non, c'est une semaine d'entraînement et c'est assez facile. Oui. Wow.
On en est là, quoi.
Et si vous n'avez pas les moyens, vous faites les vols moins chers, qui sont les vols paraboliques sur l'Airbus 310 qui est à Bordeaux et qui fait des paraboles qui vont durer 20 secondes.
Et là, c'est combien ?
Alors là, c'est moins cher, c'est 6 000 euros.
Ah, oh, 6 000 euros, carrément, on peut
J'en ai fait un vendredi dernier avec des enfants handicapés. Donc, j'avais pas été dans l'espace, on peut dire, en apesanteur depuis 20 ans. Donc, c'était un retour à l'apesanteur.
Et c'était comment ?
Vraiment bien.
Et les enfants, ils ont vécu
Oui, c'était bien aussi pour eux. C'était quelque chose d'unique pour leur vie.
Ah, incroyable. Là, tu ouvres un nouvel arc là, qui est l'espace comme lien social ou en tout cas...
Partage,
le partage et toute l'humanité que ça embarque puisque tu l'as dit, toi, tu te considères comme citoyen du monde. Moi, j'ai appris avec toi la notion de drapeau terre.
Oui.
Aller poser sur la Lune. Alors, la première question bête que je t'ai posée, c'est mais ça ressemble à quoi le drapeau terre ?
Alors, je l'ai fait voler une fois en 92, mais il avait été fait par... Paul Quillès, qui était le ministre de l'espace à l'époque, et donc ce drapeau représentait les cinq couleurs principales des continents. Et il a volé. Le problème, c'est que le drapeau terre a été fait par la France, donc il n'avait pas vraiment de légitimité par rapport aux autres pays du monde entier. Donc il est revenu au sol et on l'a pas refait voler. Mais l'idée du drapeau terre reste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la construction d'un nouveau drapeau terre qui permettrait de poser ce drapeau terre sur la Lune puis sur Mars.
Michel, c'est passionnant. Pour finir cet entretien, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme clé de lecture ? Qu'est-ce qui a été pour toi déterminant pour passer de pour basculer dans la coopération même entre ces deux grandes puissances ? Qu'est-ce qui est déterminant ? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient dans notre management du quotidien finalement pour essayer de rassembler, de faire converger dans le même sens des gens ou des équipes ou des choses qui, sur le papier, ne peuvent pas fonctionner ensemble.
Eh bien, quand je parle de l'exemple de drapeau terre, par exemple, il y a deux choses importantes. C'est la vision commune, donc avoir une vision commune, avoir une vision. Vision, si c'est deux sociétés, une vision commune. Si on est seul, une vision pour soi-même, à 5 ans et à 10 ans, et la confiance. Donc la confiance, c'est ce qu'on a réussi à établir de façon très compliquée, et très complexe, entre Russes et Américains, parce qu'on passait de vraiment confiance négative. Et il fallait qu'on passe à la confiance positive. Et pour la confiance, eh bien, il y a un ingrédient qui fonctionne bien, c'est la congruence. C'est-à-dire congruence à trois niveaux. Congruence personnelle, pour avoir la confiance en soi. Congruence dans l'équipe, pour qu'on puisse dire à n'importe quel moment à son commandant de bord de la station ou à ses équipages qu'on est bien, qu'on n'est pas bien, ou qu'on a fait une bêtise, n'importe quoi. Donc, être aligné par rapport à ce qu'on dit, donc congruence par rapport à son équipe. Et congruence étatique, c'est-à-dire que un truc qui est vraiment assez incroyable, c'est que dans la station spatiale, vous avez d'un côté les Russes, d'un côté les Américains, les portes sont ouvertes. Donc si vous faites un trou dans la cabine du côté russe et que la pression fuit du côté russe, ça va fuir du côté américain. Donc on ne peut rien cacher. Mmh. Et pour que ça fonctionne bien, donc on a cette congruence à trois niveaux, personnel, équipage, étatique. Et cette congruence va donner la confiance. La confiance, c'est vraiment un ingrédient qui fonctionne à cause et grâce à la congruence. Donc la congruence, c'est quelque chose qu'on peut travailler soi-même, par rapport à soi-même et par rapport à ses équipes. Donc chaque business, chaque travail sur Terre peut travailler et améliorer sa congruence.
Je te remercie, un grand merci à toi. On n'a pas parlé de Thomas Pesquet, mais on en reparlera une autre fois. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Et puis c'est plein. Merci pour la simplicité, l'humanité, la gentillesse, le partage. C'est exceptionnel ce que tu as parcouru et ce que tu as réalisé au cours de toute ta carrière, que tu es encore en train de réaliser. Merci de le transmettre à tous les gens qui vont nous écouter. C'est passionnant. On pourrait en parler des heures. Hein. L'épisode, il a dérapé. D'ailleurs, on a fait plus long que prévu. Mais c'était vraiment un grand, grand plaisir. Un grand Michel, un grand merci. Et puis peut-être un jour, tu m'amèneras dans l'espace.
Alors, volontiers. En plus, je parle russe. Je parle bien anglais. Donc, je peux être traducteur si jamais tu as un problème pour comprendre ce qui se passe dans les domaines.
Impeccable. Grand merci à toi. À très bientôt.